Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine du mois d'août 2024. Ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Dernière d'août, et même on frôle le 1er septembre, dimanche. L'été tire à sa fin, oui, oui. La saison d'été tire à sa fin. Soyons précis. Malgré tout, c'est les rentrées scolaires qui se déroulent un peu partout au Québec, universitaire, secondaire, primaire. Il manque moins de professeurs que l'année dernière, donc mission accomplie pour Bernard, selon Bernard. C'est moins pire, donc on est meilleur. Dresse un peu le portrait, mais quand même, ce n'est pas chose faite. Mais ça s'enligne pour être possible. A lieu également présentement du côté de Paris. Les Jeux paralympiques 2024. Et le Canada fait présentement bonne figure avec 4 médailles de bronze à son actif, plaçant au total des médailles en 11e position. Le pays. La toute première médaille de bronze a été gagnée par Kate O'Brien en paracyclisme sur piste sur 500 mètres. Aurélie Rivard a remporté la première médaille à la natation, aux 50 mètres style libre, donc pour ainsi dire au sprint. Et le podium se poursuit avec une deuxième et une troisième médaille de bronze en paracyclisme. Kelly Shaw, 3000 mètres. Et Alexandre Hayward, même compétition, le 3000 mètres sur piste. Donc, tout va bien pour l'instant. On commence avec une bonne récolte, mais sauf erreur, les précédents jeux avaient également été une bonne récolte, un peu moins à Tokyo qu'à Rio. Je pense que Rio avait été meilleur au terme de récolte, mais... En deux jours, 4 médailles et au moment d'enregistrer, évidemment. Ça va quand même bien. Sinon, qui dit rentrée dit bien sûr... rentrée scolaire. Dans ce cas-ci, dit également rentrée parlementaire qui s'en vient tout bientôt. Ça veut également dire que, avec la fin de l'été, les maisons de sondage reprennent un peu de service. Ce qui fait également en sorte qu'on dresse un nouveau portrait. De la situation politique et au Québec. Si des élections avaient lieu demain matin, ou aujourd'hui même, au choix. Selon les derniers sondages, c'est le Parti québécois qui remporterait, mais en situation minoritaire. À peu près vainqueur dans toutes les catégories, sauf au vote anglophone. Le Parti québécois est premier dans la région de Montréal, dans la région de Québec, avec une bonne avance. Ailleurs au Québec, chez les femmes par un point devant la CAQ, chez les hommes par 8 points devant la CAQ. Québec solidaire stagne dans les 3e et 4e places. Le Parti libéral est en queue de peloton à plusieurs endroits, sauf chez les anglophones, où c'est le seul pourcentage qui est élevé pour eux. Et dans les groupes d'âge, malgré tout, Québec solidaire est devant à 33% des jeunes 18-34, suivi par le PQ et étonnamment par les conservateurs, 16%. Chez les 35-54, et ça c'est peut-être le chiffre qui me surprend encore plus que le fait que les conservateurs soient troisième chez les jeunes, chez les 35-54, les conservateurs tombent à la 4e place, derrière Québec solidaire, derrière la CAQ, et très très loin derrière le Parti québécois en première position avec 31% des intentions de vote. Et chez les 55 ans et plus, sans surprise, la CAQ domine quand même à 34%, mais de très très près avec le PQ à 32. Donc... ce qu'on peut en constater, c'est que les conservateurs perdent des plumes, étonnamment, après de son électorat de base, même si techniquement, il a gagné un point de plus par rapport au dernier pourcentage. Mais, justement, cette différence-là entre les partis, quand justement le Parti québécois obtenait des 35, 33, 32, s'effondre à 29. La CAQ remonte un tout petit peu à 24. Le Parti québécois se maintient à 16, Québec solidaire se maintient à 15 et le Parti conservateur prend un gain de 1 point par rapport à la dernière fois. Mais plutôt que d'avoir des avances de quasiment le double, bien le double, d'avoir des avances de 13 et 11 points, là on a une petite avance de 5 points. Donc ça semble vouloir se calmer un peu. La lune de miel avec le Parti québécois semble s'essouffler. Mais pas au point non plus de donner une défaite. Ce qui fait en sorte qu'en termes de sièges, justement, le Parti québécois tombe minoritaire. Donc, avec 54 sièges, il en faut 63 pour avoir la majorité. Donc, QS a la balance du pouvoir avec ses 9 députés. Il en perdrait donc un ou deux, oui. Le Parti libéral se maintient à 29. La CAQ remonte un petit peu à 27, mais se trouve quand même comme étant la deuxième opposition au Parlement. Et les conservateurs pourraient faire élire au moins un député, possibilité de 6, si les 4 sont vraiment bien alignés, mais d'avoir un conservateur sûr, c'est quand même nouveau. Dans le cas du parti d'Éric Duhaime, je suppose que... Non, même pas. J'étais convaincu que c'était les deux... Ah non, c'est la Beauce, c'est pas sur ce tableau-là. Ce serait la Pelletrie à Québec, le comté d'Éric Kerr, qui pourrait tomber du côté conservateur et probablement l'emporter. Ce qui me surprend, tandis que ben, normalement, les deux Beauce auraient dû être sur le tableau sur lequel j'ai cliqué. Bon, on les a mis ailleurs et c'est là assurément qu'il y aurait des gains. Ah non, même pas. C'est même pas solide. C'est enclin. Comme quoi, tout est surprenant. Et évidemment, bien le comté que Ziut. Présentement, Denis Coderre n'obtient pas de gain, même s'effondre à peine, à peine 4% des intentions de vote dans Bellechasse. C'est un coude à coude entre les conservateurs et la CAQ à 32 et 29, suivi de très près par le Parti québécois à 26. Donc, Déjà que les rassemblements autour de Denis n'étaient pas particulièrement courus, bien il semblerait qu'il n'y a pas non plus d'élan du côté régional. On savait très bien que Denis Coderre, parachuté dans Bellechasse, n'allait pas nécessairement gagner tout d'un coup la circonscription. Surtout qu'il a juste annoncé qu'il allait se garrocher dans Bellechasse et non pas qu'il allait offrir sa candidature. Ce qui faisait dire à un analyste de « Ouais, mais est-ce que les gens de Bellechasse, c'est leur vote? Est-ce qu'ils voteraient pour lui? » La question est là. Du côté fédéral, conservateurs continuent de creuser leur avance, creusent encore plus leur avance avec un énorme 43% d'intention de vote sur le Parti libéral qui est à 25, une avance donc de 18. Le NPD stagne à 15 et à l'échelle canadienne, le Bloc est à 6%. Évidemment, au Québec, la répartition est plus élevée avec 29%, suivi à 27% par les libéraux, mais avec quand même un 23% pour les conservateurs. Dans l'Atlantique, ce serait une razzia bleue foncée avec 55% des votes. En Ontario, même chose, 43 contre 30. Manitoba, 54% pour les conservateurs. Manitoba, Saskatchewan, mais avec le NPD à 22%. À l'Alberta, sans surprise, 58% contre 21% pour le NPD. Colombie-Britannique est à peu près la dernière place avec le Québec et l'Ontario, où il performe un tout petit peu, un tant soit peu. 55% conservateurs, 21% libéral. Étonnamment, et femmes et hommes votent conservateurs avec quasiment le double des intentions sur le Parti libéral. Et dans les groupes d'âge, même chose, c'est l'avance pour les conservateurs pour les trois groupes d'âge. Le NPD, les libéraux sont ex aequo à 21% chez les 18-34. 35-54, c'est 21-19. Et les 55 ans et plus préfèrent le Parti libéral à 30% contre 8% pour le NPD. Mais sinon, c'est les conservateurs majoritaires partout ailleurs. Ce que ça dit, c'est qu'on est tanné de Justin, plus qu'on a l'intention de vouloir Pierre Poilievre. Faut pas se mentir. L'usure du pouvoir aura raison, encore une fois, du gouvernement actuellement en place. Les ministres s'enlignent les uns après les autres pour dire qu'ils soit ne se représenteront pas ou qui vont se trouver des raisons familiales de ne pas participer aux prochaines élections. C'est déjà un peu écrit dans le ciel pour la plupart. Peut-être ceux que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, c'est assuré qu'ils vont quitter. Notamment Pablo Rodriguez qui ne veut pas dire qu'il pourrait s'essayer comme libéral provincial à la chefferie. Éventuellement, peut-être, on ne sait pas, comparé, par exemple, à d'autres comme François-Philippe Champagne, qui, lui, est tellement heureux de marcher et heureux de vivre que lui pourrait rester dans les parages du Parti libéral fédéral. Donc, ceux qui sont là de plus longue date, qui ça ne leur dérangera pas d'être 4 ans sur les bancs de l'opposition, resteront dans le sillon libéral fédéral, mais sinon, on risque d'annoncer beaucoup de gens qui vont quitter la vie politique dans les prochains mois. Dans une tentative de faire parler de lui, Pierre Poilievre, cette semaine, est allé en disant « Yo, Jagmeet le chicken! » Défais donc le gouvernement libéral, sinon t'es un chicken. Chicken? Je ne sais pas trop quelle raison. En tout cas, il voulait, c'est ça, faire parler de lui cette semaine. Donc, il a décidé d'envoyer une lettre pour dire à Jagmeet, arrête d'être un vendu libéral, sale vendu. Tu devrais défaire le gouvernement quand mon parti va proposer de faire des élections hâtives. Vas-tu le faire, Jagmeet le corrompu? Tu sais, en traitant tout le monde de nom, règle générale, ça sera pas une bonne tactique pour que Jagmeet fasse comme « Oui, j'ai vraiment envie de suivre ce gars-là sur le parcours d'une campagne électorale. De toute façon, il y a une partielle, il y a deux partielles, je pense, c'était en Saskatchewan, l'autre. Et sinon, il y en a une du côté de Montréal où, justement, un château fort libéral pourrait tomber, mais aux mains soit logiquement du NPD, mais ce n'est pas garanti. Les conservateurs tentent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu, même si justement c'est un bastion libéral depuis plusieurs années. Mais c'est au Manitoba, comme je le disais bien, Elwin Transcona au Manitoba et Lassalle et Mort Verdun du côté québécois. Dans le cas, surtout, de Lassalle et Mort Verdun, c'est un test, évidemment, pour le parti de Justin Trudeau, s'il est capable de conserver ce qui est normalement des acquis. Mais c'est également un énorme défi, puisque bon, la grogne elle est présente. Plus que jamais, sera-t-il capable de surmonter ça? Le parti Rhinocéros a évidemment rembarqué également ses 50, 60, 80 candidats dans la circonscription. Donc le bulletin de vote sera encore une fois extrêmement long. Ce sera difficile peut-être également de se rendre jusqu'au bout du nom parce que le candidat est libéral et bloquiste sont des sauvés. Ça ne s'invente pas. Les deux se nomment Sauvé. Donc, ils se retrouvent en queue de... Non, c'est le NPD, le Bloc québécois. Les deux se retrouvent en queue de bulletin en étant Craig et Louis-Philippe Sauvé. Reste à voir de quoi ça pourra avoir l'air, mais énormément de gens figurent sur ce bulletin de vote. Je vais les compter pendant la courte pause et on... continuera à parler de l'actualité de la semaine, ici même sur les ondes de CFA 80.3 et de Chiz 94.3. Vous écoutez le deuxième service, Labyrinthe de Maud Audet, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFA, sur les ondes de Chiz. Après un compte sommaire, là, je ne l'aurais pas fait trois fois non plus, il y aurait 91 députés, candidats plutôt, à l'élection dans la salle Aymar Verdun, le parti Rhinocéros en ayant proposé eux-mêmes à peu près 85 candidats sur ce bulletin. 91 le total, puisqu'il y a également des candidats pour aucune appartenance, parti marxiste-léniniste, il y a 3-4 aucune appartenance, OK. Le parti vert sera représenté, le parti de l'héritage chrétien du Canada, le Parti populaire de Maxime Bernier, etc., etc. Et les habituels NPD, Bloc, conservateurs et libéraux au travers de tout ça. Bande annonce tout de suite. Encore quelques critiques de films est à l'affiche, peut-être encore pour quelques temps. Jour de chasse, tout de suite, à l'écoute.
Je peux-tu rester avec vous autres?
C'est un chalet de chasse. C'est pas pour les filles, un chalet de chasse.
Elle s'engage à vivre comme un loup, selon la loi de la meute.
Je te préviens, si ça n'a pas d'allure, je traque mon camp.
On a-tu de l'air d'une gang de pas d'allure?
Tout le monde? Et Doudos, mon nouvel ami.
Si t'es avec la meute, t'es avec la meute à la vie, à la mort.
You're back! Let's go! Let's go!
Faut que t'apprennes à te servir de ta faim. Si tu chasses pas, tu manges pas.
Hey. C'est quoi? L'hostie de cauchemar dans quoi on est pogné depuis qu'il est arrivé, lui.
La nature, c'est elle. La seule. L'unique rédemptrice.
On est tous là-dedans. Une meute jusqu'à la fin.
Le vrai cœur, c'est de regarder sa proie des yeux avant de la tirer.
Après un contrat qui a mal tourné, la travailleuse du sexe Nina trouve refuge auprès d'un groupe d'hommes dans un chalet. Ces derniers sont regroupés, isolés, en forêt, afin d'enterrer la vie de garçon de l'un de leurs membres. C'est vrai. C'est vrai, il y a cet élément-là qu'on passe très rapidement. Ils ne sont pas tous heureux d'accueillir une femme pendant une fin de semaine, mais suite à un vote et une initiation, Nina est finalement invitée à se joindre à eux. Ils pourront chasser, boire et user de drogue en toute tranquillité. L'arrivée d'un mystérieux inconnu vient toutefois troubler les festivités. Voilà, c'est le court résumé de Jour de chasse. Naima Ritchie joue le rôle de Nina. On retrouve également Bruno Marsil, Alexandre Landry, Marc Beaupré, Frédéric Millard-Zouvi. Proposition intéressante. Bon, comme c'est dans un lieu fermé, mais ouvert, fait que c'est un huis clos, il y a vraiment juste ces personnages-là. Et à peu près, c'est à peu près tout, that's it. Ça se passe entre eux autres, ça se déroule, c'est ça. Le temps d'une fin de semaine où justement il y a le drame qui arrive d'avoir une autre personne qui arrive sur les lieux du chalet en question. Bon, on peut pas vraiment parler du conflit, ceci dit, mais il y a quand même une grosse question éthique qui vient à se poser en lien avec cet événement-là. Puis bon, comment est-ce que tout le monde réagit? Comment est-ce que les gens pensent avoir peut-être la solution ou non? Voilà, question éthique dans ce cas-ci. C'est intéressant comme proposition. C'est court, 1h20. Comparativement à d'autres films qui justement étirent ça à 2h, 2h30. Là, on est vraiment dans un film relativement court, 1h20. Il y a beaucoup d'aspects de rêve aussi. De, on est-tu dans le film? On est-tu dans elle qui s'imagine des affaires? On est-tu dans à cause des drogues hallucinogènes aussi? Fait que, tu sais, est-ce que ça se passe pour vrai? C'est-tu dans le rêve? On est rendu où? Ça, c'est un petit peu confus. J'avoue qu'à un certain moment, j'étais plus certain d'être rendu où. On est-tu réveillé? On ne l'est pas. Mais en même temps, vu qu'on suit le personnage de Naima Ritchie, elle non plus n'est pas certaine d'où ce qu'elle est rendue. Fait que c'est un peu normal d'être mélangé avec elle. Fait que pour ce bout-là, c'est quand même réussi pour la confusion. T'sais, on le décrit comme étant un thriller psychologique, oui. Suspense psychologique, oui. Oui, il y a du suspense. Il y a une à deux occasions où on peut faire le saut. Oui, ça oui. Oui, j'ai fait le saut à une de ces deux-là, oui. Fait que, tu sais, l'idée est bonne, mais la conclusion... C'est pas une fin ouverte, là, ça. Au moins, j'étais content parce que ça aurait pu complètement laisser ça sur une fin ouverte. Mais justement, la partie rêve, la partie « c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai » sur la fin, ben oui, c'est vrai parce que tu peux pas inventer ça puis imaginer que c'est d'autres choses. Mais tu sais, un peu de tout ça pour ça. Tu sais, un peu de « ah ouais, ça va finir de même, OK ». Intéressant, mais ça reste très égoïste de la part du personnage. Fait que non, c'est intéressant. Ce sera un excellent film de dimanche soir. Après, tout le monde en parle. C'est la nouvelle catégorie que j'aime attribuer au film. Un film pas très bon d'action américain, ça c'est généralement à nouveau l'après-midi. Un film québécois que le vendredi à 8h, comme Arlette, qui aura le droit à sa première cette semaine, vendredi 20h, le film de Marie-Pierre Morin. Pour ne pas la nommer, de Marie-Lou Wolfe, qui a fait énormément jaser parce que justement, Marie-Pierre. Ça serait peut-être un peu rough de passer Jour de chasse à 8h le vendredi soir à la fin de l'été. Mais ça, un film de 22h40, non, même pas, il y a Infoman. Fait que ça serait 23h18. parce qu'on aime ça mettre des cases horaires un peu étranges le vendredi soir, ça serait parfait. Ça fitterait complètement. Et c'est pas parce que c'est pas bon. Tu sais, il y a des bons films le dimanche soir à Radio-Canada jusqu'à 2h du matin. Ça existe. Mais il y a eu un film côté 1 dernièrement, là, La Pianiste, film de 92-93 qui avait gagné un Oscar. Des Oscars. Fait que il y a des bons films à Radio-Canada le soir, le dimanche soir, à passer 11h. Mais c'est ça, c'est que c'est public averti. Ça parle de chasse, fait que il y a éventuellement un animal mort. Il est très très mort l'animal, fait que on a des beaux gros plans là-dessus, avec cœur sensible de s'abstenir, mais sinon ben c'est la chasse, hein, fait que ça fait partie. Mais non, proposition intéressante, mais qui se termine rapidement, mettons. Disons ça comme ça. Jour de chasse. Elle affiche encore quelques temps. Je leur souhaite. Ça vaut la peine d'être vu en salle pour encourager les films quand même un peu plus petits québécois aussi. Ça vaut la peine en salle. Mais soyez avisés. Il y a des bouts que ça fait un peu le saut. Courte pause au retour. Une autre bande-annonce. On retourne au cinéma ici même sur les ondes de CFAQ 80.3 et de Chiz 94.3. Il y a Paquet qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Ababouiné tout de suite d'André Forcier. Film qui a une petite recrudescence. Plus de salles présente le film. Ça, c'est bien, ça, quand même. Ababouiné tout de suite.
Chaplet!
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 Monsieur Rochette! Un cadeau de ma mère.
Vive le Québec, laïc. Sortons la religion des écoles et la Bible des tribunaux. Audacieux.
J'adore la moto. Ah.
Charlotte Saint-Amour l'a donné à toute la classe.
Petit papier cul. Petit esprit libre.
Enfin, des éditeurs courageux.
Eh oh, pas de politique dans une province catholique.
On va se débarrasser de la religion, puis se concentrer sur les choses utiles, comme la philosophie, puis la poésie.
J'ai 14 nouveaux mots pour ababouiner.
Papa, Monsieur Rochette a des nouveaux mots.
J'ai les bois. Ça fait deux fois qu'on reprend à cause de vos flagos.
Flagos? Quel bon mot.
Je vous en prie, Monsieur Rochette. Est-ce qu'on peut avoir un cours de religion? Toute la classe me déteste. Surtout Michel Pocket.
Il y a juste vous qui m'aimez.
Prie pour lui avec moi.
Les siffles! Remercie la place du Faubourg!
Morfeu.
L'oratoire a été souillé par le vol du cœur du frère André.
Mon doux seigneur, frère André! Michel n'ira pas à l'école aujourd'hui.
Il veut se faire débaptiser.
Madame Paquette, faites-le exorciser.
Mon petit gars fera pas de mal à une mouche. C'est pas un bandit!
Tant que le cœur manquera, les bedeaux sonneront le glas tous les quarts d'heure de Sainte-Anne-de-Bellevue jusqu'au bout de l'île.
OK, là! Ça va faire les cloches! Okay, ben!
Pardonnez-moi, monseigneur, je suis troublé, moi aussi.
Vive le Québec laïque! Vive Rochette!
C'est en lisant sur Saint-Écle et ses dons que j'ai guéri mes hémorroïdes.
Attache ta tuque avec de la broche, on va te donner une maudite belle ride.
Alors, beaucoup de choses dans ce ababouiné d'André Forcier. Montréal 57, l'influence du clergé sur la province est considérable. Cela n'empêche pas les gens de souhaiter un Québec laïque. Michel, 12 ans, a eu la polio. Il habite le Faubourg Amelas à Montréal. Rêvant de poésie et d'écriture, il passe ses journées à l'école et à aider un vieil éditeur à typographier des livres. Le recueil Ababouiné est presque terminé. Il risque d'éveiller les consciences. Le manuscrit est cependant confisqué par les membres de l'Église. Michel et ses amis sont prêts à tout pour le récupérer, défiant l'une des plus puissantes institutions. Il y a quand même énormément de monde dans ce film-là. Éric Bruneau, Rémi Gérard, Gaston Lepage, Martin Dubreuil, Mélane McKay, Réal Bossé, Donald Pilon, Pierre-Luc Briand, Noémie O'Farrell, Jean-Marie Lapointe, Golin Chevrette, Pascal Monpetit. Donc, une distribution très, 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 très impressionnante quand même. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a comme deux, trois films dans ce film-là qui auraient comme tous mérité individuellement une place, mais trop courts, fait qu'on les a agglutinés ensemble parce que le bout religieux, le bout dans les écoles, c'est comme une thématique, un film. Le curé Éric Bruno. Après ça, ben le frère Éric Bruno. Après ça, puis Monseigneur Rémi Gérard. Après ça, t'as justement le recueil de livres, la protection de la langue, les expressions québécoises avec Ababouiné, qui est une entité en soi. Et après ça, les petites histoires. Ben le frère André, c'est un fait qui a existé. Le cœur du frère André s'est fait voler à une certaine époque. Bon, il connaît une fin particulière dans Ababouiné. Mais c'est un fait divers qui a existé à l'époque. Fait que ça, en tant que tel, l'intrigue du frère André est comme un peu à part. Stéphane Crête au générique qui ferait la voix du frère André. Je savais que la voix me disait quelque chose. Mais en voyant le nom, j'ai dit « Ah ouais, Stéphane Crête, c'est vrai. » Puis, voilà. Fait qu'il y a comme ces trois entités-là qui s'imbriquent un peu difficilement les unes avec les autres. Quoique, parce que le recueil d'Ababouiné en tant que tel n'est pas nécessairement la raison pour laquelle on parle de laïcité. Mais on confisque quand même Ababouiné au cas. Fait que tu sais, il y a comme toute cette partie-là d'écriture, de poésie, de, tu sais, qui est comme mis un peu de côté pendant une bonne partie du film pour à la fin, c'est comme « Ah oui, c'est vrai, le film s'appelle Ababouiné. » Puis « Ah oui, on avait un recueil de livres qui allait se faire. » Et comme justement, c'est des expressions québécoises, ben on a beaucoup d'expressions québécoises dans ce film-là. Fait que, tu sais, le premier volet, c'est à peu près que des expressions québécoises. Fait qu'il faut s'y atteler. Mettons que sur le coup, on peut rester un peu bête. Ah ouais, autant, ça va-tu être ça tout le long? Faut se rassurer, pas nécessairement. On ressort une fois de temps en temps une expression québécoise. Mais le premier 15-20 minutes, mettons que ça surprend. D'être capable de faire autant de dialogues avec autant d'expressions québécoises, c'est quand même un exploit, ça, en partant. Mais justement, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est un film sur la langue québécoise, sur le joual des années 50, parce que ça se tasse rapidement, ça devient le bout religieux laïque. Et au dire même d'André Forcier, c'est un film sur la laïcité. Après ça, on peut se demander... Pourquoi appeler ça Ababouiné à ce moment-là? C'est pas clair. La terminologie que... Ben une définition que j'ai d'Ababouiné, qui n'est pas celle du film, se dit d'un bateau arrêté en plein océan par un calme subi. Donc, un bateau ababouiné, mais il n'y a comme pas mis dans une phrase non plus. Fait que c'est... On l'explique rapidement, ce que ça veut dire, ababouiné, mais sinon, on élabore pas plus que ça. Fait que c'est pour ça que... Puis ça, ben évidemment, c'est l'univers d'André Forcier. Fait que si on n'est pas... Tu sais, comme je disais tantôt, à micro fermé dans le bureau, tu sais, je me souviens d'avoir vu « Embrasse-moi comme tu m'aimes » ou « Embrasse-moi si tu m'aimes » avec Céline Bonnier... Avec Roy Dupuis, Antoine Bertrand, etc., tu sais, il y a 4-5 ans, je me souviens d'avoir vu le film. Je le sais que l'univers... Puis il faut le savoir que l'univers d'André Forcier, il y a des bouts très fantaisistes, faut l'accepter parce que c'est là, ça n'aura jamais d'explication. Puis dans Ababouiné, il y a un personnage qui est là, on ne sait pas trop comment, mais il est là. Puis c'est jamais plus expliqué que ça, pourquoi il est là, mais il est là. Puis, c'est ça qui est drôle, tu sais, on lit, les critiques sont très, très bonnes. Les critiques ont beaucoup aimé ça, mais, et encore une fois, c'est drôle parce que la critique que j'ai sous les yeux parle justement des mots français, mais à la base, c'est supposé être un film sur la religion. Fait que justement, quand je dis qu'il y a comme deux, trois sujets qui s'imbriquent un peu difficilement ensemble. J'ai envie de dire que c'est comme un peu une espèce de triptyque. C'est comme si c'était trois petits films qui, évidemment, n'auraient pas pu survivre individuellement plus que 20, 25, 40 minutes. Fait qu'ils ont été imbriqués ensemble, trois sujets imbriqués ensemble, ou en tout cas trois parties. Frère André, la laïcité, puis la langue québécoise, langue française québécoise, qu'on a essayé de blender ça en le mettant sous la bannière d'être dans le Faubourg Amelas, quartier qui n'existe plus de Montréal, quartier plus pauvre de Montréal qui n'existe plus, qu'on a essayé, c'est ça, tout mettre ça ensemble, mais que ça... Les liens sont là, mais un peu moyennement bien ficelés. Puis on a essayé de construire autour de ça. Mais individuellement, ça fonctionne. Tous ensemble, moi, j'ai un petit point d'interrogation. Faut accepter l'univers d'André Forcier, parce que c'est ça, il y a des bouts très étranges dans ce film-là, qu'il faut accepter que c'est un peu normal que ça se produise, même si c'est très bizarre. Mais sinon, en tant que tel, c'est un film intéressant. Évidemment, ça n'aura pas le million de succès que peut avoir en ce moment et 1995 et Les Belles-Sœurs, parce que c'est quand même un peu plus niché. Mais peut-être est-ce que grâce à cette distribution-là, quand même assez impressionnante, ça va encourager les gens à y aller. Il faut que les gens aillent voir le cinéma d'ici, comme on dit tout le temps, mais c'est intéressant. Tu sais, c'est ça, il y a une proposition intéressante, c'est très, très bizarre. Mais en même temps, il y a une petite réflexion aussi, puis ça, tu sais, c'est justement l'héritage québécois, même si c'est pas ça techniquement la base du film, mais non, ça vaut la peine d'être vu sur un grand écran quand même. Oui. Et dans ce cas-ci, on pourrait parler d'un film de samedi soir. 8h, compte tenu du sujet. Quoique quelques petits bouts un peu vulgaires qu'on pourrait dire, mais enfin, il y a des scènes qui ne peuvent pas convenir à tout public. Il y aurait cet avertissement-là à un certain moment s'il est présenté à la télévision, mais bon, ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Il y a un peu de sang aussi là, avec le cœur de Frère André et tout ça. Fait que... Voilà. Ababouiné, c'est au cinéma, ça a même... Quelques salles continuent de l'acheter, donc pour ça, c'est positif. Bravo, André Forcier. Courte pause, de retour, la conclusion de l'émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Zoo Baby, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Ça a été dévoilé jeudi. La Cour suprême du Canada a coupé court aux tentatives de Maxime Bernier. On en parlait tantôt, Parti populaire... à 3% d'intention de vote au fédéral, de contester la légalité de certaines mesures sanitaires mises en place durant la pandémie de COVID-19. Parce que oui, malheureusement, il y a encore des gens qui sont pognés en 2020 à dire sur les réseaux sociaux que le masque, ça n'avait pas de bon sens, puis nanana, même si on est rendu 4 ans plus tard et que tous ceux qui ont été vaccinés il y a 4 ans devraient être morts depuis l'année dernière. Maxime Bernier a contesté devant la Cour fédérale les arrêtés d'urgence et les arrêtés ministériels qui obligeaient les passagers à être vaccinés contre la COVID-19 afin de pouvoir monter à bord d'un avion. Oui, oui, Maxime Bernier est là-dessus. Cette obligation a été imposée par Ottawa entre le 29 octobre 2021 et le 20 juin 2022, donc même pas 12 mois, puisque cette exigence avait pris fin... Avant l'audition de la cause, la Cour fédérale a radié la demande de Bernier au motif qu'elle était devenue théorique. C'est le cas quand une affaire ne présente pas de litige actuel qui aurait pu avoir une incidence sur le droit des citoyens. Donc, si cet avis-là était encore en vigueur aujourd'hui, là, Maxime Bernier aurait pu continuer de... perdre du temps au palais de justice, mais comme ça a été pendant une période juin, juillet, août, septembre, octobre, fait que une période d'à peu près 8-9 mois, Ben, on a fait comme, OK, ben là, c'est fini. Jeudi, le plus haut tribunal du pays a mis un terme définitif à l'aventure juridique de Maxime Bernier en décidant de ne pas entendre sa cause. Cela met fin également à ses espoirs de voir un juge trancher sur le fond. Deux autres poursuites similaires ont aussi connu également le même sort. Des groupes de citoyens, dont un mené par l'ancien premier ministre de Terre-Neuve, Brian Peckford, avaient également intenté des contestations des mesures pandémiques devant la cour, y compris l'obligation d'être vacciné pour voyager en train. Les grandes préoccupations de ces gens-là. Bernier est chef du Parti populaire. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, voilà, ex-chef du Parti populaire sous Stephen Harper. Il était passé à un cheveu de devenir chef du Parti conservateur du Canada, mais c'est Erin O'Toole qui avait été choisi. Et lors d'une tournée au Andrew Scheer. Non, c'était contre Andrew Scheer. C'est vrai, c'était Bernier Scheer, le duel. Et finalement, c'est Andrew Scheer qui l'avait emporté pour perdre. Et Maxime Bernier s'était fait passer les menottes lors d'une tournée au Manitoba en 2021 parce qu'il avait enfreint les restrictions liées à la taille des rassemblements permis, qui étaient limitées à 3-4 personnes. Maxime Bernier s'était donc ramassé dans un parc avec une dizaine, voire peut-être une quinzaine de personnes, ce qui faisait en sorte que c'était un rassemblement qui ne se pouvait pas dans la municipalité où il se trouvait au Manitoba. Dans cette série de jugements de première instance qui ont radié les causes, plutôt que de trancher sur le fond la légalité de l'obligation vaccinale pour les voyageurs entrés en avion, la Cour fédérale a noté qu'il ne lui appartenait pas de dicter les actions futures des gouvernements, des prochains gouvernements. Ces décisions ont été confirmées en appel par un jugement commun, malgré la ferveur déployée par les partis. Donc, quand même qu'on dirait que le Parti libéral n'était pas correct il y a 4 ans, ben ça ne peut pas faire en sorte que s'il y a une autre pandémie dans 8 et qu'on décide d'avoir des systèmes similaires parce que la pandémie dans 8 ans, en 2032, va être pire que la COVID, ben on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, dans 8 ans, ce sera plus justifié ou moins justifié qu'en 2020 parce que ce n'est pas la même maladie, parce que ce n'est pas le même virus, etc., etc. Donc, c'est littéralement du cas par cas, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas légiférer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Juste parce qu'on n'a pas aimé ça, porter un masque dans un train du CN. La Cour avait ajouté que de toute façon, voilà, la jurisprudence est bien établie sur le sujet. Les contestations de l'obligation vaccinale ont été intentées dans le contexte bien précis et exceptionnel d'une pandémie mondiale. Trancher ces nouvelles demandes, voilà, reviendrait à répéter ce qui a déjà été dit sur les droits des citoyens conférés par la Charte et leurs limites. Les mesures provinciales et fédérales édictées pour protéger la santé publique ont été validées par les tribunaux lorsque toute contestation a été faite et ou remise en question devant des juges. Malgré ce revers pour les citoyens qui estimaient avoir été lésés par les mesures d'exception mises en place durant la pandémie de COVID, d'autres contestations poursuivent toujours leur chemin dans le système judiciaire. La Cour suprême du Canada doit, par exemple, trancher dans la légalité d'une interdiction de voyager qui a empêché une femme de Terre-Neuve de se rendre au chevet de sa mère mourante. Un tribunal de première instance a jugé son droit de quitter le Canada. Un tribunal de première instance avait jugé que son droit de quitter le Canada a été violé, mais cela était justifié dans les circonstances. Donc, elle ne pouvait pas quitter Terre-Neuve en pleine pandémie pour aller, dans ce cas-ci, au chevet de sa mère. Elle dit que c'était contre ses droits. La justice dit « on est dans une pandémie, c'est pas le temps de voyager ». Voilà, la question était lancée, mais ce dossier-là, lui, est techniquement encore devant les tribunaux. Reste à voir de quoi, qu'est-ce qui sera, quelle décision sera rendue. Oui, cette phrase-là se peut. Quelle décision pourra être rendue, si on veut utiliser un autre verbe. Mais voilà, donc déception, très certainement, pour les apôtres de « oui, mais moi, j'aime pas ça, fait que je veux une exception, etc., etc. » Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3. On se dit à la semaine prochaine. Salut!